Bienvenue dans les déchaînés du football, le magazine des déchaînés du football. Il est 19h05, on est ensemble pendant 1h30 jusqu'à 20h30 avec monsieur Gaëtan Pinel qui est en train de régler son micro. Bonsoir Gaëtan.
Tout est bon, bonsoir Dominique, bonsoir à tous, bonsoir aussi à nos amis de la Comcam qui nous suivent bien sûr sur les pages Facebook des déchaînés du football.
Merci à Sébastien qui s'occupe de la capture vidéo pour la page Facebook des déchaînés du football. Vous pouvez donc voir cette émission en direct pour ceux qui sont équipés de Facebook et il suffit d'une connexion internet, même voilà. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même aller sur la page Facebook des déchaînés du football. Pierre est avec nous aussi comme tous les lundis soirs. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir Gaëtan,
bonsoir
Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Alors un week-end avec un match en moins d'abord,
ah oui.
Lorient qui n'a pas joué, deuxième match consécutif où Lorient ne joue pas, deuxième journée, 20e et 21e journée, deux matchs importants manqués par les Merlus, la réception de Dijon et puis ce déplacement à Nîmes qui n'a pas eu lieu ce week-end. Alors on a déjà une info pour un de ces deux matchs, hein, il aura lieu pour le match de Dijon, la réception de Dijon, dès mercredi prochain Gaëtan.
Exactement, mercredi soir à 21h, Lorient recevra Dijon pour donc cette 20e journée en retard. Alors, de ce qu'on sait, c'est que Pierre-Yves Hamel et Julien Laporte ont repris l'entraînement collectif en fin de semaine dernière, mais il manquera encore 4, 5, peut-être 6 joueurs dans cette équipe de Lorient qui pourra cependant aligner 20 joueurs non touchés par la Covid-19, donc qui pourra jouer contre Dijon ce match. Reste à savoir quels joueurs exactement seront disponibles et à la disposition de Christophe Pélissier. Mais en tout cas, on a un sacré calendrier qui va s'annoncer pour Lorient, puisqu'il va y avoir 6 matchs en moins de 3 semaines là, pour les Merlus.
Et attention, hein, les Merlus ont absolument besoin d'une victoire contre Dijon. C'est,
et encore, heureusement qu'ils sont éliminés de la Champions League.
Oui. C'est cela. Heureusement qu'il y a plus ça, parce que sinon il n'y aura plus de place.
Sérieusement, il faut gagner, on l'a dit, au moins l'un de ces deux matchs. Hein. Le match à Nîmes sera peut-être un peu plus difficile parce que c'est un déplacement, mais on attend une victoire contre Dijon. C'est impératif pour ne pas être distancé. On ne parle même plus de quitter tout de suite la zone rouge, mais pour simplement conserver l'espoir. Parce que au classement, là, bon, c'est vrai que Lorient n'a pas joué ses deux derniers matchs, mais ça se passe mal hein, pour les Merlus. Non seulement ils sont derniers, mais...
Ils pourraient être 17e s'ils gagnaient les deux matchs, mais il faudrait gagner les deux.
Oui, ça, ce serait l'idéal.
Ce serait l'idéal, et une victoire, ça permettrait de recoller avec la place de barragiste. Donc une victoire, déjà, ça permettrait de soulager un petit peu, de respirer en tout cas. Et pourquoi pas
parce qu'on donne des points aux autres aussi, hein. Ce sont des confrontations directes.
Il ne faut surtout pas les perdre, parce que sinon, effectivement, Lorient va se retrouver distancé.
Ouais. Alors un coup d'œil sur le classement rapidement de cette Ligue 1 parce qu'on continue de parler de Lorient pendant quelques secondes puisqu'on évoquera malheureusement plus Lorient dans cette soirée.
Un petit peu quand même hein, avec Michael Siani tout à l'heure, l'ancien Merlu justement qui reviendra qui reviendra d'ailleurs sur son parcours un petit peu parce qu'il avait vécu une saison aussi lui délicate notamment à Lorient, pas que mais en partie.
Alors on a 17e le FC Nantes avec 18 points, 18e en position de barragiste Dijon et Nîmes, 15 points ces deux clubs, et puis Lorient décroché 3 points derrière, donc voilà, même en cas de victoire, ça remettrait Lorient à égalité avec Dijon et Nîmes en nombre de points seulement.
C'est ça.
Voilà, donc il faut absolument gagner ce match, on n'a plus le choix hein, pour Lorient, et puis pour Nîmes, eh bien, espérer au moins faire un match nul, ça serait déjà pas si mal, surtout en tout cas ne pas perdre contre ces deux clubs, là ce serait la cata. Pour les autres clubs que nous suivons, pour Brest, on est toujours dans le dur, mauvaise série continue pour Brest, troisième match, troisième défaite, et pour Guingamp, on va dire sauvé sur le fil, hein, sur le gong.
Oui, avec un point miraculeux au Havre.
C'était une victoire havraise qu'on attendait, après ce match, les Havrais qui ont eu maintes occasions de doubler la mise et de mener 2-0 et de tuer le match, ils n'ont pas réussi à le faire et ils se sont fait surprendre par Rodelin, une belle frappe de René Rodelin en fin de match à la 90e qui permet à Guingamp de ne pas revenir bredouille de ce déplacement au Havre. Mais c'est toujours la même chose, hein, on se répète, c'est toujours quand même limite, c'est très très fragile du côté de Guingamp.
Oui, Guingamp n'est pas passé loin de la correctionnelle à plusieurs reprises dans ce match, il a finalement fallu un sursaut de Rodelin à la 90e minute. Sursaut qu'il n'y a pas eu du côté de Brest, malheureusement, hier sur la pelouse de Reims. Juste avant de parler de Brest, vous signalez qu'on aura également l'entraîneur de Bourg-Blanc tout à l'heure, Patrice Arand, qui viendra nous parler un petit peu de la Coupe de France qui se profile le week-end prochain, puisque Bourg-Blanc, club du Finistère, recevra l'équipe
à
de
côté
Saint-Brieux.
De Brest, hein. C'est juste à côté de Brest. De Brest.
Je peux vous dire qu'il est assez remonté. Vous allez savoir pourquoi dans quelques minutes.
Eh bien, laissons un peu de suspense. Alors, on l'aura en tout cas tout à l'heure avec nous. En attendant, on va se pencher sur le Stade Brestois 29 qui s'est incliné hier sur la pelouse de Reims. Une défaite plutôt logique, mine de rien, à l'arrivée sur la pelouse des Rémois. C'était hier après-midi sur Radio Bonheur. On écoute tout de suite le résumé. Avec Doumbia, mais ce ballon a été récupéré par les Brestois qui n'arrivent pas à se dégager. Attention à Boulaïdia à l'entrée de la surface de réparation. Et pour la frappe, la première frappe rémoise. Et c'était Mboukou à l'entrée de la surface de réparation. Elle est contrée, heureusement. Franconora sur la belle déviation encore. Le centre, il y a Perrault à l'opposé de la surface. Pierrot, ce sera pied droit dessus. Mais elle était belle, celle-là de Romain Perrault sur son mauvais pied. Ballon pour Conan avec Chavalrin qui d'un long ballon là va tenter de trouver Doumbia sur le côté gauche. Il a trouvé le centre et bon, Papa Boulaïdia à l'entrée des 6 mètres qui a repris ce ballon alors que l'Arseneur était battu et ça passe juste à côté du cadre. Sur ce ballon gratté par les Rémois à l'entrée de la surface, la frappe à côté encore. C'était une frappe cette fois de Mboukou à l'entrée de la surface de réparation. Les Brestois qui ont tergiversé à la relance. C'est parti pour Honora, c'est frappé fort devant le but, ça revient avec Chardonnay poteau. Le poteau pour Brendan Chardonnay poteau sortant. Fauquette à droite et l'accélération parce qu'il y a un boulevard pour le latéral. Fauquette, le centre ensuite à l'entrée de la surface. Chavalrin, c'est contre but. Oh, le plein de réussite pour Boulaïdia qui ouvre le score. Il n'a pas fait exprès, il s'est d'ailleurs fait mal sur le but parce que c'est une frappe de Chavalrin. Elle est contrée par le visage de Boulaïdia qui se trouvait, non c'est même beaucoup, qui se trouvait sur la trajectoire de cette balle. Il n'a pas fait exprès, mais ça a pris Gauthier Larsonneur à contre-pied. Et Reims mène 1-0 face à Brest.
Allez-y, gars.
Et Romain Fèvre, l'accélération de Fèvre. Allez pour chercher Mounier dans la surface de réparation. Mounier, ah, c'est contré par face à la bonne intervention du défenseur qui avait en plus été suppléé par Rajkovic en seconde lame. Au cas où, ce ballon passe, mais face a fait la superbe intervention en restant debout. Il a défendu debout, il a mis le pied gauche en opposition sur la frappe. Ça permet en plus à Perrault de lancer Franconora et l'accélération maintenant pour les Brestois. Allez, faut insister sur ce ballon, c'est peut-être le bon. Franconora dans l'axe qui va frapper. La frappe enroulée au-dessus du but. C'est terminé, Brest dans un après-midi sans s'incline, 1-0 sur la pelouse de Reims.
Ouais, avec une défense costaud et un but heureux.
Ça un but fait... heureux, alors là c'est le moins qu'on puisse dire. Hein,
pour ça a fait l'affaire des Rémois. Bon, ils ont été costauds, mais devant on n'a pas vu grand-chose. Mais
c'est pas une équipe qui a énormément joué, c'est une équipe qui a surtout essayé de jouer sur des transitions rapides en première mi-temps, seulement en contre-attaque sur la deuxième mi-temps. Donc ils ont laissé le jeu à cette équipe brestoise, mais qui n'a pas eu son allant habituel.
Pour Brest, mais Brest, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce match, Brest a été quand même muselé. Hein. Son attaque qui a été bien muselé. On a eu une grosse défense de Reims qui jouait très bien le coup.
Oui, c'était
du costaud derrière du côté de Reims.
Exactement, transition toute trouvée sur l'animation offensive qu'a un petit peu analysé Olivier Dalloglio après le match. Une animation offensive muette sur la pelouse de Reims.
On a les stats, mais il y a eu énormément, moi je ne les ai pas vus non plus, mais il y a eu énormément de centres. Alors, on a manqué de présence. Alors manque de précision sur certains centres, mais manqué de présence sur sur les réceptions de centre. Parce qu'il manquait du monde, et tout le monde n'était pas là, on était un peu en rentrée, on n'est pas parti, on n'a pas démarré quand il fallait. Donc il y a tous ces petits détails aujourd'hui qui nous font défaut.
Eh oui, ça a manqué de présence, comme l'a dit majoritairement Olivier Dalloglio. Ça a manqué aussi peut-être un peu de fougue de ce qu'on peut voir habituellement. Pierre, vous avez vu également ce match. C'est vrai qu'on voit beaucoup de dédoublements en général. Ça a été moins le cas en deuxième mi-temps, surtout, je trouve.
Ouais, ça a été, on va dire que la mécanique était grippée pour les Brestois hier. C'est vrai qu'on avait beaucoup vu, notamment les latéraux en début de rencontre. On parlait notamment de l'impact de Pierre Gabriel qui avait touché à lui seul un tiers des ballons que toute l'équipe de Reims avait touché lors de la première demi-heure. C'est vrai que je pense que si un téléspectateur se met devant ce Reims à Brest en seconde période, on lui met pas le score, je suis pas sûr qu'il sait que Brest est mené dans ce match. Il n'y a pas eu de révolte, de soulèvement, et c'est un petit problème brestois, parce que je crois que, alors j'ai pas le chiffre exact, peut-être que vous l'avez en tête, mais quand Brest a encaissé le premier but de cette saison, il y a eu un nul et que des défaites. Je sais pas si c'est 7 ou 8 défaites, mais voilà, souvent Brest n'arrive pas à retourner les matchs. Ils arrivent très bien souvent à les débuter parce qu'ils marquent beaucoup en première période, et même quand ils marquent en premier, ils gagnent quasiment tout le temps. Mais voilà, il y a ce problème quand ils sont menés. Il n'y a pas assez de révolte, alors de caractère, je sais pas, mais en tout cas, oui, hier, ça s'est pas vu à Reims.
Non, et en plus, un but gag pour venir couronner le tout au cœur d'une première mi-temps qui a un petit peu joué de malchance pour les Brestois, parce qu'il y a ce but gag, bien sûr, le poteau trouvé par Chardonnay.
C'est à 2-3 minutes d'intervalle, en plus,
Ouais, 38 et 40e. Ouais. Et puis le pénalty qui aurait pu être sifflé aussi, parce qu'il y avait une main de Woodfest sur la tête de Mounier. Ça a penché côté Rémois hier après-midi avec ce but gag donc de Nathanaël Mboukou, d'Olivier Dalloglio qui a réagi à ce but encaissé.
Non, mais c'est une frustration de dire on n'est pas dépassé par les événements. Alors les gars, à la mi-temps, comment on peut prendre un but comme ça? Ben oui, effectivement, comment on peut prendre un but comme ça? La moitié assommée, il a marqué un but. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais c'est des périodes, voilà, il y a des périodes aussi comme ça, donc ça tournera certainement. Voilà. Donc oui, les gars sont déçus.
Un but de gag, des poteaux cette fois-ci en défaveur des Brest, des Brestois.
Comme la semaine passée d'ailleurs.
Le vent tourne, on a l'impression.
Et oui, ça s'inverse pour revenir sur la petite
blague d'hier. Les poteaux étaient adverses, on se souvient, la barre poteau de l'Arsenal, le doux poteau de Bordeaux.
17 fois sauvés par les montants, les Brestois cette saison, sauf que là, sur le dernier match contre Montpellier, il y avait eu 3 montants, dont un qui était hors-jeu, c'est vrai. Un autre hier encore, ça commence à faire beaucoup sur 2 matchs.
Et puis le but gag quand même.
Et le but gag,
c'est vraiment pas de chance, parce que c'est un but complètement involontaire d'un Rémois.
Une frappe de Chavalerin qui partait sur le parking, comme on dit, et puis Mboukou qui se trouvait sur la trajectoire. Qu'il a dévié de la tête sans faire exprès, du nez, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs.
Il a eu très mal.
Mboukou qui disait j'ai eu du nez sur ce coup-là quand il est venu en conférence de presse, c'est vrai. Et il allait pour Henri Guirlandais en plus, Chavalerin, parce qu'il a dit il allait presque le Henri Guirlandais pour
pas. Tu m'as fait mal,
lui avoir fait mal.
Mais bon,
il s'est dit quand j'ai vu que c'était dedans, finalement, bon, je me suis calmé. mais effectivement, un sacré coup de chance pour les Rémois. Faut savoir aussi la provoquer de temps en temps, mais ça n'a pas tourné pour les Brestois, qui sont donc sur une série de 3 défaites consécutives, le Paris Saint-Germain et Rennes, les deux premiers, des équipes face auxquelles il n'y a pas non plus mort d'homme de perdre, bien sûr. Contre Reims, un peu plus embêtant, surtout par rapport au contenu. Alors, la question lui a été posée à l'entraîneur Olivier Dalloglio: est-ce que, dans les prochaines semaines, il va se diriger vers un petit peu plus de pragmatisme pour retrouver une certaine sérénité au niveau des résultats? C'est également une question qui lui avait été posée en début de saison, quand les résultats n'étaient pas très bons. Écoutez la réponse d'Olivier Dalloglio.
Non, pas spécialement. En fait, j'ai les joueurs que j'ai. En fait, c'est des joueurs qui sont portés vers l'avant. Après, on demande beaucoup de travail à tout le monde. Sur certains matchs, il faut avoir une réflexion aussi par rapport, peut-être, on a l'apport d'un garçon comme Lucas qui est arrivé. Il faut qu'il trouve aussi sa place là-dedans. S'il faut modifier quelque chose, on modifie aussi, hein. Voilà, donc je suis fermé à rien, en tout cas.
Oui, c'est fermé. C'est pas avec 11 points d'avance sur la zone rouge qui va se renier.
Ben non.
Peut-être
non.
que si ça se rapproche à 5-6 points, la question se posera. Mais là, 11 points, faut qu'on.
Voilà, on pouvait s'y attendre, évidemment, à cette réponse d'Olivier Dalloglio. D'autant que, en début de saison, quand la machine avait un petit peu de mal à se mettre en route, parce qu'on se souvient que Brest avait débuté par 2 défaites de rang, notamment, avec 7 buts encaissés très rapidement, il n'avait pas renié déjà ses principes. Donc là, avec cette avance qu'il a sur la zone rouge, même si Brest, c'est vrai, est dans le dur, dans le petit creux de la vague de sa saison, pas de raison de renier les principes et de changer ce qui a fonctionné jusque-là, ce qui a fait la force aussi du Stade Brestois sur la première partie de saison, ce jeu, ses nombreux buts marqués. Alors, ses nombreux buts encaissés aussi, malheureusement, c'est un peu le défaut des qualités du Stade Brestois, mais jusque-là, ça a bien fonctionné. Un petit écran publicitaire et puis on revient sur la deuxième partie consacrée au Stade Brestois dans ce magazine des déchaînés du football.
Savoir sur l'achat d'un véhicule d'occasion avec Renault Occasion. Laurent, vous êtes spécialiste auto, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on achète un véhicule d'occasion, on cherche souvent à faire la meilleure affaire possible.
Oui, en clair, on pense budget de fonctionnement et d'entretien. Eh bien, Renault Occasion propose justement une offre attractive et rassurante.
Ah, dites-nous tout alors.
Pour l'achat d'un véhicule d'occasion de moins de 2 ans et de moins de 40 000 km, pour 1 euro de plus seulement, le client bénéficie de 3 ans d'entretien et cerise sur le gâteau de 3 ans de garantie.
Ah, c'est bien ça. Et alors, les 3 ans d'entretien, ça comprend quoi ?
Eh bien, la révision, l'assistance en cas d'accident, la crevaison, la perte de clé. Ça couvre aussi l'usure des pièces, comme les balais d'essuie-glace par exemple. En fait, tout sauf les pneus.
Ça, c'est une offre qui permet effectivement de maîtriser son budget.
Oui, et d'être rassuré, puisque vous roulerez en toute sérénité. Vous trouverez les véhicules concernés en concession près de chez vous ou sur renault-occasion.fr.
Offre valable sur une sélection de véhicules de moins de 2 ans et moins de 40 000 km.
Tu connais un réseau de serrurerie agréée et des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Jusqu'au 31 janvier, la Seat Ibiza Urban est à partir de 99 euros par mois, sans engagement et sans apport, sur des véhicules disponibles tout de suite. Rendez-vous vite chez votre distributeur Seat ou sur seat.fr.
Seat Ibiza Urban TSI 95 chevaux, location longue durée 37 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Offre sans engagement sous condition de reprise résiliable à tout moment, tout mois commencé est dû. Réservé aux particuliers sur le stock disponible jusqu'au 31 janvier et livraison avant le 31 mars 2021. Conditions sur seat.fr.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, cette nouvelle voiture ?
Dernièrement, j'en profite pas beaucoup. Et elle me coûte quand même cher.
Vous savez, chez Groupama, rouler peu vous donne droit au tarif petit rouleur, sans compromis sur les garanties. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Ah, enfin une bonne nouvelle !
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Bouygues Télécom. En janvier, Renault de Rennes a pris deux résolutions. S'offrir une télé 4K et passer à la fibre. Mais comment tenir ces résolutions sans se ruiner ? Eh bien, Renault, cette promo va vous réjouir.
En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez vite de la fibre avec Bibox Smart TV et de 90% de remise sur un téléviseur Samsung 4K 125 cm. Soit 49 euros au lieu de 499 euros. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Prix de la box 39,99€, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.
C'est les soldes chez Cdiscount. Retrouvez des milliers d'articles jusqu'à moins 70% pour votre maison, vos loisirs ou votre quotidien. En plus, la livraison est gratuite dès 25 euros d'achat. Faites le choix du e-commerce français avec Cdiscount.
Cdiscount.
Soldes du 20 janvier au 16 février inclus sur les produits signalés. Voir conditions sur le site.
Alors, je lis sur votre CV hobby, BMX, skateboard, longboard, kitesurf, photographie et ça continue. Mais vous faites comment ?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Place à toutes vos passions avec le nouveau Mini Countryman édition suréquipée Northwood à partir de 370 euros par mois sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 mars 2021. Conditions sur mini.fr.
Menez.
C'est le magazine des déchaînés du football. On est en direct. Il est 19h24. On continue de parler des Brestois. Nouvelle défaite, on le rappelle, pour les Brestois.
Oui. Il n'y avait qu'un sale changement dans le 11 de départ ce week-end par rapport à la semaine précédente. C'est Romain Philippotto qui avait remplacé Irvine Cardona. Cardona qu'on avait senti un petit peu, peut-être pas emprunté, mais moins à son aise, en tout cas face au Stade Rennais. Philippotto l'a donc remplacé. Ça n'a peut-être pas forcément été aussi convaincant qu'espéré aux yeux d'Olivier Dalloglio. Et la question s'est posée, est-ce que du côté de Brest, il pourrait y avoir un peu plus de changements aussi dans cette équipe dans les semaines à venir? On évoquait éventuellement peut-être même un changement de schéma tactique pour ce déplacement à Reims qui n'a finalement pas eu lieu. La réponse d'Olivier Dalloglio suite à quelques changements, voire bouleversements.
Voilà, il y a eu une petite modification, il n'y aura pas de bouleversement dans l'équipe. Voilà, parce qu'on est parti sur une base qui n'est pas mauvaise. Il faut aussi faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est les résultats qui suivent pas. Après, on n'a pas été mauvais à Paris, on n'a pas été mauvais contre Rennes, on n'a pas non plus été nul ce soir, pas plus nul que l'équipe adverse. Donc il faut aussi pas que regarder sur les résultats, il faut regarder sur le contenu. Mais ce qui n'empêche qu'on peut modifier suivant les états de forme des uns et des autres. Voilà, on voit très bien que par moment, soit au niveau offensif, il y a des garçons qui sont dans une certaine continuité et d'autres sont un peu moins fringants, on va dire.
Oui, dans ces joueurs un peu moins fringants, on pense sur ces deux, trois derniers matchs à Steve Mounier notamment.
Moins en réussite, du moins.
Ouais, il l'a un petit peu évoqué, on va dire, le cas de Steve Mounier sans le citer, mais voilà, on semblait bien qu'il parlait de lui, Olivier Dalloglio. C'est vrai que un peu moins en réussite, un peu moins trouvé aussi dans ces espaces-là. Honora qu'on a toujours trouvé, je trouve, sur ce match-là, ce match ici à Reims. Cardona qui est entré.
Mais comme bien souvent, les Brestois, quand ils perdent, ils sont rarement mauvais.
Oui.
Ça a été le cas, hein. Ils auraient pu faire match nul, ils auraient peut-être même pu gagner ce match contre Reims. Souvent, c'est le cas des Brestois.
Les
Brestois,
oui, c'est pas les mauvais matchs de Brest cette saison, quoi. Nîmes, Nantes, peut-être.
Nîmes, Nantes, Strasbourg aussi,
Nantes,
à la maison.
Ça a été moyen aussi, hein.
Oui, à Marseille, ça avait été sur la deuxième mi-temps, c'était mieux, je crois. Mais la première était moyenne, quoi.
Non, je crois qu'on. Je sais plus, j'ai peut-être entendu Lens, je sais pas. Marseille,
oui.
Non, Marseille, c'était
Lens,
bien.
Ah,
c'est
oui,
Lens,
oui.
Lens,
c'est
Lens, c'était.
Ouais. Oui, Lens, Nîmes, Nantes et Strasbourg. La défaite 3-0 à domicile, ouais. Et c'était pas non plus passé grand chose.
Ouais, 4 sur 21, ça va.
Bon, 4 sur 21, oui, ça reste quand même assez.
En tout cas, ils sont pas passés complètement à côté de leur match.
Non.
À Reims, c'est.
Non, parce qu'ils auraient même pu ouvrir le score.
Oui, ils auraient pu gagner, hein, s'il y avait eu ce pénalty, s'il n'y avait pas eu ce coup de chance aussi des Rennes. Voilà, donc ça s'est joué à pas grand chose finalement ce match.
Ça s'est joué à pas grand chose, exactement, dans cette rencontre, sur un petit coup du sort. Alors, évidemment, les adversaires connaissent aussi davantage cette équipe de Brest, maintenant, après la première partie de saison rayonnante du SB 29. Et pour Olivier Dalloglio, il va falloir maintenant pousser ce jeu-là encore un peu plus loin pour surprendre davantage l'adversaire. On écoute l'entraîneur des Tizèf.
J'avais prévenu les joueurs, de toute façon, souvent. Sur la deuxième partie de la saison, les équipes adverses se connaissent mieux. Donc, il y a de mieux préparer les matchs, à mieux contrer les qualités de l'adversaire.
Oui, ils arrivent à mieux contrecarrer les plans de l'adversaire. Ça a été le cas de Reims qui a bien défendu sans proposer beaucoup de jeux, qui a bien défendu et bien. Contrecarré constamment cette attaque brestoise restée muette des Brestois, donc qui comptent 31 buts marqués, 37 encaissés, qui sont 13e de ce championnat avec 26 points, soit 11 d'avance sur la zone.
Il y a peut-être un
rouge.
Coup à faire le week-end prochain quand même, hein, avec la réception de Metz.
Oui.
C'est un club à leur portée.
Oui, un club qui va bien, hein, mais qui est à leur portée.
Depuis le retour d'Antonetti.
Oui, il y a quand même eu la victoire contre Nantes, là, la victoire à Lyon la semaine précédente, notamment. Ça va plutôt bien du côté de Metz. Le planning là, des Brestois sur les trois prochains matchs, c'est réception de Metz, déplacement à Strasbourg et réception de Bordeaux. Donc, il peut
priori,
un petit peu tout se passer sur ce genre de match.
Des matchs Brest gagnables, en tout cas, à chaque fois.
Doit reprendre effectivement la main un petit peu sur peut-être un, deux de ces trois matchs, en tout cas, pour redresser un petit peu la barre, atteindre aussi la barre des 30 points, qui n'est plus très loin avec ses 26 unités.
Bon, voilà, on n'est pas inquiet pour les Brestois.
Non.
Ça arrive à tous les clubs. club, d'avoir un coup de moins bien dans le championnat. Là, on est à 3 défaites consécutives, mais rien d'inquiétant, surtout quand on voit le jeu des Brestois. On leur souhaite de réussir bientôt, et puis bah, notamment contre Brest, dimanche 31 janvier.
Ouais, contre le FC Metz, dimanche prochain à 15h. Contre Brest.
Ah oui, contre Brest.
À 15h, un match qui se jouera d'ailleurs en même temps que le Lorient-Paris-Saint-Germain. C'est rare que le PSG joue le dimanche à 15h. Ce sera dans le même moment.
Ça tombe sur vous, Gaëtan.
Ça tombe sur moi, exactement, pour ce match-là au Moustoir. Des Merlus qui joueront donc aussi mercredi, parce qu'on va basculer un petit peu sur la page Lorient maintenant. On va avoir dans un instant d'ailleurs Michael Siani avec nous au téléphone, l'ancien joueur du FC Lorient, des Girondins de Bordeaux aussi, notamment.
Et de l'équipe de France.
Et de l'équipe de France, exactement, une sélection.
De France en mars 2010 contre l'Espagne.
Contre l'Espagne. Michael Siani, qu'on aura avec nous dans un instant, un joueur qui a évolué 3 saisons du côté de Lorient. Tout d'abord en prêt, lorsqu'il était prêté par les Sangliers de Sedan pour la saison 2006-2007. Il a même joué 4 saisons au total à Lorient. 2006-2007, un maintien. 2007 à 2009, ensuite 2 autres maintiens. Et puis 2016-2017, une relégation là en Ligue 2 avec les Merlus sous les ordres de Sylvain Ripoll puis de Bernard Cazoni.
Oui, il était revenu aidé.
Il était arrivé en fin de mercato estival. Son premier match, c'était la quatrième journée contre Lille, une victoire d'ailleurs. Il avait démarré par une victoire, mais derrière ça s'était compliqué encore un peu plus pour les Merlus dans cette saison 2016-2017. Lorient qui était donc descendu avant de remonter l'année dernière, bien sûr, à la suite de 3 saisons consécutives en Ligue 2. On a avec nous, ça y est, Michael Siani, l'ancien défenseur des Merlus. Bonsoir Michael.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors avant de discuter, de parler du FC Lorient, on va d'abord prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Que devenez-vous finalement depuis que vous avez arrêté le foot maintenant il y a 3 ans?
Oui, j'ai terminé mon dernier contrat en fin 2018 à Los Angeles Galaxy. Depuis, je suis rentré sur Paris. J'avais des business entre autres à mettre en place, m'occuper un peu de mes affaires et surtout retrouver ma famille. Puis là, depuis peu, je commente avec Téléfoot. Bon, c'est tout trop bon pour combien de temps, mais voilà, c'est un peu ce que je fais ces derniers temps.
Et donc, vous suivez, j'imagine, un petit peu l'actualité des Merlus aussi, alors?
Oui, entre autres, ouais, forcément. Je vais avoir complètement le nez dedans. Donc, j'ai déjà commencé à 2 ou 3 reprises de chez Lorient. Donc, ça me permet aussi de suivre les personnes du club.
Alors, quel est votre regard, justement, sur la première partie de saison du FC Lorient? Première partie de saison compliquée en termes de points, mais au-delà de tout ça, quel est un peu votre sentiment sur ce qu'a fait Lorient?
Bah oui, effectivement, bon, compliqué en termes de points, compliqué dans les prestations et surtout dans la régularité. C'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel intéressant. Après, de ce que j'ai vu, ça manque un peu de maturité, j'ai envie de dire. Surtout pour revenir et remettre un coup de collier pour former dans le droit chemin. On a une équipe relativement jeune et je trouve qu'il manque quelque chose qui permettrait au groupe de justement prendre un peu plus conscience et se relever. Après voilà, c'est un groupe jeune, c'est la difficulté de la Ligue 1 aussi.
Alors, vous avez justement connu, hein, Michael, des saisons où il a fallu batailler pour le maintien, notamment d'ailleurs avec Lorient. Qu'est-ce qui doit faire la force d'une équipe dans ce genre de situation où les points sont difficiles à engranger?
Bah, la force d'une équipe, si on avait le secret, ça serait plus facile. On pourrait justement l'évoquer au club ou à l'entraîneur pour qu'il puisse le faire. Nous, on n'est pas... étant joueur, je sais très bien que ce qui se passe dans une équipe et dans un groupe, ça, personne de l'extérieur peut le savoir, et nous, on a beau avoir un œil extérieur, c'est pas forcément ce qui se passe dans le sein d'une équipe. Et pour moi, voilà, ce qui manque à Lorient, encore une fois, vu de l'extérieur, donc c'est peut-être pas objectif ce que je dis, mais voilà, c'est un peu de coup de collier, un gros réveil,
quelque chose qui pourrait me stimuler encore plus. Après, voilà, c'est compliqué parce que quand on est dans une spirale négative, et j'ai pu l'être avec le FC Lorient en 2016, ça a été très compliqué de surlever. Alors voilà, c'est prendre un but, on se dit on est encore dedans. Mettre un but et se mettre la pression aussi en se disant faut qu'on tienne le score. Se faire rattraper. Enfin voilà, ça. Les problèmes dans ces situations, et surtout quand on n'a pas des joueurs d'expérience qui peuvent calmer une équipe ou justement galvaniser une équipe ou essayer de les amener vers l'avant, c'est des situations très compliquées.
Alors justement, vous avez évoqué cette saison 2016-2017 que vous avez connue avec Lorient. Ça s'était terminé malheureusement par une relégation. Mais il y avait des joueurs d'expérience à ce moment-là. Il y avait vous, Arnold Mvuemba, Jérémy Aliadière aussi notamment. Avec un peu de recul, quelles avaient été du coup les erreurs alors commises à l'époque?
C'est le début de saison. Je pense que le début de saison a mis le groupe dans une vraie spirale négative. Moi, je suis arrivé, je crois qu'il y avait 5 matchs, 5 défaites, donc c'était un peu compliqué. Derrière, il y a eu aussi le fait que le coach soit parti. Hein, c'est vrai que Sylvain Ripoll est parti assez tôt. Ça a un peu déstabilisé le groupe. On a eu du mal à se remettre dedans avec le nouveau coach. Donc, il y a eu beaucoup de situations. Après, ce ne sont pas des excuses, hein, parce que ça arrive à toutes les équipes. Et c'est nous, les joueurs, qui sommes sur le terrain. Il a manqué un peu... tout ce que je vous ai évoqué avant, en fait. Il a fallu un peu plus de caractère, ce qu'on n'a pas eu.
Alors Mathieu Dreyer justement disait après le match à Bordeaux, le dernier joué par les Merlus avant d'être stoppé par la crise sanitaire, qu'un maintien ne se jouait pas forcément sur les qualités d'une équipe mais davantage sur l'état d'esprit, sur son état d'esprit. Est-ce votre avis alors, Michael?
Oui, c'est un peu ce que je dis. C'est... Il faut de la qualité dans une équipe pour justement pallier des fois au manque tactique ou compter sur un joueur, des attaquants sur lesquels on peut s'appuyer, qui peut sur une défense, ou un joueur costaud en défense qui peut tenir une équipe entière. Donc ça, c'est des qualités intrinsèques individuelles que voilà, les joueurs sont lesquels les joueurs peuvent s'appuyer. Après, c'est vrai que voilà, c'est un sport de à 11 et même à 20, hein, ceux qui sont sur le banc. Et il faut que ce soit un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est tout le groupe, c'est tout. Il faut que tout le groupe aille dans le même sens, que le groupe se comprenne, il faut qu'il y ait des automatismes et des choses naturelles qui se passent sur le terrain. Dès qu'on manque un peu de confiance et qu'on n'est pas derrière le joueur en difficulté, on n'est pas son coéquipier, ça commence à devenir difficile.
Oui, puis c'est vrai qu'on se rend compte que quand quelque chose va mieux dans cette équipe de Lorient, il y a un autre problème qui débarque. On pense au début de saison où Lorient concédait beaucoup de buts, mais en marquait. Il y avait le problème défensif à régler. Ouais. Puis il y a eu 6 matchs sans marquer de but, et à ce moment-là, il y en avait un petit peu moins d'encaissés. Et maintenant que Lorient remarque, eh bien, il y a ces problèmes défensifs qui réapparaissent. Ça semble être un peu une spirale infernale quand on est dans une équipe comme ça.
Vous savez, toutes les équipes prendront des buts, toutes les équipes m'en marqueront. Après, il y a des phases, il y a des moments où on en encaisse plus que d'autres. Ce qu'il faut trouver dans une équipe, c'est de la régularité. C'est-à-dire que quand Lorient fonctionne, quand Lorient marque, il faut qu'ils puissent continuer à tout le temps marquer. Après, ils vont prendre des buts, mais ça ne doit pas douter sur leur capacité à être fort offensivement. Et quand on a des moments de trou, et ben justement, faut essayer de mettre sa force qui a été la leur quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt sur la défense, par exemple. Ils ont été mauvais en défense. Ben, s'ils marquent plus, et ben faut qu'ils soient plus réguliers en défense. Mais ça, c'est toute l'équipe, c'est pas que les défenseurs. Et ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que voilà, c'est 11 joueurs qui attaquent, 11 joueurs qui défendent. Et forcément, dans une saison, il y a un moment où on a un petit trou.
Alors à cause de la crise sanitaire, Lorient va enchaîner maintenant 6 matchs en moins de 3 semaines, à commencer par mercredi contre Dijon. On dit souvent que c'est compliqué quand on est dans une situation comme celle-là, d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. C'est peut-être un mal pour un bien aussi finalement. Ça permet d'éviter de cogiter quand on est dans la situation des Merlus.
Alors moi j'ai toujours apprécié jouer beaucoup de matchs, même en très peu de temps. Bah, ça permet, comme vous le dites, ça permet de ne pas trop cogiter, de ne pas rester sur des mauvaises prestations, s'il y a, et de revenir direct dans le sujet, se reconcentrer dès le lendemain sur son prochain match. Donc, et après, voilà, il n'y a pas de, y a des difficultés, mais c'est un métier, c'est un sport qu'on fait tous les jours. Certes, c'est pesant sur les jambes et dans les esprits de jouer autant de matchs, mais c'est pour ça aussi qu'on fait du foot, hein, c'est pour jouer plusieurs matchs. Et si c'est pas des matchs exceptionnels, ben, des matchs de compétition européenne ou peu importe, mais voilà, jouer plus de matchs possible, c'est pourquoi on va sur le terrain et c'est ce qui nous fait vibrer aussi. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose. Et ça permettra aux joueurs aussi de rester concentrés sur les objectifs.
On va terminer cette interview, Michael Siani, par une note positive aussi, avec, en revenant sur votre passage. On rappelle, vous avez fait 4 saisons à Lorient, 2006 à 2009, puis 2016-2017. Quel est votre meilleur souvenir durant votre passage dans le Morbihan, Michael?
Ah, forcément, je dirais 2006-2009, parce que j'ai passé plus de temps. C'est vrai que le club a beaucoup changé durant mon retour. Le club avait beaucoup changé, les infrastructures aussi, hein, qui sont aussi meilleures, mais voilà, c'était un peu plus familial. J'ai passé 3 premières saisons de 2007-2009 qui étaient exceptionnelles, avec des joueurs exceptionnels, hein. La plupart des joueurs sont allés dans des grands clubs aussi, donc une grosse ambiance, une bonne ambiance, je veux dire, dans le vestiaire, ça s'est très très bien passé. C'est même, je vais vous dire, c'est même les meilleures années de, en tout cas, font partie des meilleures années de ma carrière. Après, mon retour, ça s'est très bien passé aussi. Je suis revenu aussi parce que Sylvain Ripoll était l'adjoint de Christian Gourcuff lors de mes 3 premières saisons. Donc c'est aussi pour lui que je suis rentré. Bon, il est parti rapidement, donc ça a un peu gâché mon retour. Bon, j'ai eu l'avantage d'être capitaine de 2016 à 2017. Mais c'est peut-être pas l'année que je retiendrai, vu qu'il y a une descente. Mais ça a toujours été, en tout cas, un plaisir de revenir dans le Morbihan.
Une dernière question de Pierre, Mickaël.
Oui, bonsoir Mickaël. Une dernière question, parce que on le voit, donc vous faites vos années à Lorient, après vous partez à Bordeaux où dès la première saison vous êtes champion, vous gagnez. Non, c'était juste après le titre, mais vous jouez la Ligue des Champions. Après il y a l'équipe de France, il y a la Lazio aussi. Sur quoi vous avez le plus progressé sur vos premières années à Lorient?
Et surtout, en fin de compte, surtout parce que c'est Lorient qui m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai eu derrière. Ah, faut pas l'oublier, faut pas qu'on croit que voilà, il a été à Bordeaux avec les champions de France, avec Laurent Blanc, et que tout était venu comme ça. Non, si j'avais pas fait ce qui s'est passé à Lorient, j'aurais jamais obtenu ce travail-là. Donc je suis reconnaissant par rapport à ça, par rapport à Christian Gourcuff qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a fait confiance, mes coéquipiers, les supporters, la vie dans laquelle j'étais. Voilà, tout ça, ça m'a permis d'obtenir ce que j'ai derrière. Et pour moi, j'ai jamais connu une si bonne formation, je veux dire, qu'à Lorient, parce que moi, quand je suis arrivé à Lorient, Christian Gourcuff m'a dit, c'est lui qui m'a lancé, en fait, c'est lui qui m'a lancé en Ligue 1, qui m'a fait prendre conscience, qui m'a appris beaucoup de choses, et sur un plan tactique, j'ai jamais connu ce que j'ai connu à Lorient. C'est vrai que je suis allé à la Lazio, hein, l'Italie, on le sait, hein, c'est un pays qui, pour les défenseurs, est super enrichissant parce que tactiquement ils sont très très solides. Mais voilà, j'ai beaucoup appris à Lorient et justement sur ces bases-là, je ne sais pas si dans cela aujourd'hui.
Et merci beaucoup Michael Siani d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur pour revenir sur votre passage, notamment au FC Lorient.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Au
le magazine des déchaînés du football, toujours sur Radio Bonheur, en ce lundi soir, comme chaque lundi soir, de 19h à 20h30, 19h44. On va parler des clubs amateurs et de la Coupe de France.
Ah oui, dans un instant. Avant cela, on va d'abord faire un petit zoom sur ce qu'il s'est passé en national.
Ah oui, en national
aussi.
D'abord, en troisième division, pardon.
Exactement, ce week-end avec le Stade Briochin qui a été chercher un bon point sur la pelouse de Laval, 0-0. Problème, Saint-Brieuc n'a toujours pas gagné à l'extérieur, mais...
On s'impatiente quand même, hein, quand on est supporter des Briochins, on aimerait bien une victoire maintenant de Saint-Brieuc.
Exactement, une victoire à l'extérieur où Saint-Brieuc n'a pas gagné. Alors, par équilibre, disons qu'il gagne beaucoup à domicile, ce qui vient un petit peu leur offrir cet équilibre de points au classement. Et de son côté, Concarneau a partagé les points également à la maison. Par contre, pour les hommes de Stéphane Lemignan, match nul, un but partout face à l'avant-dernier, le Sporting Club de Lyon, qui avait ouvert le score sur pénalty à la 5e minute par Jordan Pierre-Charles, et c'est Guillaume Jégous à la 91e qui a égalisé, donc pour offrir un point à Concarneau, le 10e match nul de Concarneau cette saison en 19 matchs, plus de la moitié.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est beaucoup effectivement pour les Tauniers. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le leader, c'est toujours le Sporting Club de Bastia, 38 points. Deuxième, Quevilly-Rouen Métropole avec 37 points. Troisième, le Red Star qui joue ce soir avec 30 points, mais qui se déplace ce soir donc à 20h45 sur la pelouse du Mans. Et puis derrière, on retrouve Créteil, Avranches, 27 points, Cholet, 26. Un petit peu plus bas dans le classement, Concarneau, 10e place avec 25 points, juste devant les Griffons de Saint-Brieuc avec 23 unités en 11e position. Un championnat qui se referme par Bourg-en-Bresse, Pérona, Boulogne, le Sporting Club de Lyon et Annecy. Mais à noter que demain, Annecy recevra Bourg-en-Bresse, Pérona lors d'un match en retard, et que si Bourg venait à gagner ce match, Saint-Brieuc n'aurait plus qu'une petite longueur d'avance sur la zone rouge. Donc méfiance.
Mais c'est
quand
compliqué
même,
ce championnat, parce qu'il y a un seul club à monter, mais il y en a quatre à descendre.
Il y a deux clubs à monter, plus un barragiste qui joue contre le 18e de Ligue 2. Mais il y a effectivement quatre à descendre.
Énorme.
C'est le seul championnat en France où on a autant de descentes. 4 sur 18, c'est presque un quart.
Ouais, 4. En plus, il n'y a pas 18 clubs. Il n'y a pas 20 clubs, il y en a que 18. Il y en a que 18.
Ils sont dispatchés dans les 4 groupes de N2. Oui.
Exactement. Et comme il y a 4 groupes de National 2, il en faut un par groupe qui puisse descendre. Mais ça fait.
La marche est haute. Hein.
Ouais,
la marche est haute.
Est très haute.
Ouais, entre le National, le championnat de National 2 et le championnat de National. Il vaut mieux rester en National. C'est mieux pour les Briochins et pour les Tauniers.
Oui.
On parle Coupe de France ?
Exactement, les Tauniers qui sont éliminés de la Coupe de France, mais pas les Griffons, parce que les Briochins, ils vont jouer contre Bourg-Blanc. On va avoir d'ailleurs dans un instant l'entraîneur de Bourg-Blanc.
Le président,
Patrice Aran au téléphone, parce que Bourg-Blanc affronte le Stade Briochin, justement, club de National. Bourg-Blanc qui est un club, Pierre, rappelez-moi, de
R2. R2 qui a sorti Guy Pava, club de R1 au tour précédent. C'était il y a des mois et des mois, c'était au mois d'octobre, avant le deuxième confinement. Et ce week-end, donc, devrait avoir lieu le sixième tour de la Coupe de France, la voie des clubs amateurs. Vous avez suivi la voie des clubs professionnels la semaine dernière avec la piteuse défaite de Guingamp contre Caen à Roudourouls. Il y aura aussi l'entrée des clubs de Ligue 1 les 9 et 10 février prochains. Il y aura Lorient Paris FC le mardi 9 et Brest Rodez le mercredi 10. Deux matchs à suivre sur Radio Bonheur. Et ce week-end, il y aura donc le sixième tour de la Coupe de France pour les clubs amateurs, en tout cas pour ceux qui veulent jouer ce tour, parce que il y a déjà eu, je crois, le club de Flair qui a déclaré forfait par rapport aux conditions dans lesquelles les clubs amateurs doivent reprendre. Et donc, on va avoir l'avis du président de Bourg-Blanc qui doit donc affronter le Stade Briochin, club de National. C'est une belle affiche pour cette équipe, Gaëtan.
Oui, c'est une belle affiche pour Bourg-Blanc qui va affronter une équipe qui évolue donc 4 divisions au-dessus, si c'est ça, R2, donc R1, N3, N2, c'est ça, 4 divisions au-dessus. Belle affiche pour Bourg-Blanc face au Stade Briochin. On a d'ailleurs avec nous le président donc de Bourg-Blanc, Patrice Aran. Bonsoir Patrice.
Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs.
Bonsoir.
Alors Patrice, dites-nous tout, vous devez donc jouer ce week-end contre Saint-Brieuc. Quelle est la position de votre club par rapport à ce protocole de reprise imposé par la FFF, la Fédération Française de Football, pour ce sixième tour?
Alors, bien sûr, une fierté de jouer ce premier abord, une fierté de jouer ce tour contre une équipe briochine, donc qui est comme en national et qui est quand même intéressante à jouer. On s'est qualifié, donc on le mérite quelque part. Hein, nos joueurs ont fait les efforts, en tout cas, pour se qualifier, pour aller la chercher. Maintenant, moi, mon opinion, qui est donc pour l'instant que le mien, c'est de l'incompréhension, effectivement, le délai qu'on a pour se préparer. Et au niveau de l'été, que faire jouer un club amateur comme le nôtre contre une équipe de nationale qui est plus proche du milieu professionnel, qui continue son championnat, qui s'entraîne, qui en fait vit sa vie normale, parce que pourquoi pas, après, c'est juste comme ça, ça a été décidé, des nationales s'entraînaient, mais maintenant, tomber contre cette équipe-là, c'est juste compliqué. Et vis-à-vis, je vais être honnête, des conditions sanitaires actuelles en France, je ne comprends pas qu'on mette des joueurs à fanfaronner sur un terrain de football alors qu'à côté il y a des gens qui souffrent, des partenaires de notre club qui sont fermés, nos bars, nos restaurants qui nous accompagnent depuis des années, qui actuellement sont à l'arrêt. L'éthique de mon sport, la façon d'être vu par les autres, des autres sports qui sont arrêtés, tout ça j'ai du mal à comprendre. Et moi, ma position en tout cas, elle est claire, et je l'ai annoncé aux joueurs et au bureau, je ne serai pas le président de Bourblanc qui jouera dimanche contre le Sabriochin. Si la décision est prise donc par le bureau, parce que je suis pas dictateur, je les ai laissés j'aurais exposé mes faits et je les laisse prendre une décision. Si on le joue, il n'y a pas de souci, je serais fier de voir mes joueurs participer à cette rencontre. Ils le méritent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, je ne serai pas le président de ce club-là, c'est certain. Je pense à nos soignants qui, eux, sont au combat permanent.
C'est ou le forfait, ou vous jouez, mais vous n'êtes plus le président dès cette semaine.
C'est ça. À la décision donc que je respecterai de mon bureau, donc de potentiellement me dire il faut qu'on joue, c'est aussi le foot, et ok, pas de souci, mais je serai plus, en tout cas moi le président, je cautionne pas du tout dans la pandémie historique que vit notre pays. Je pense aux régions qui sont touchées. Effectivement, nous la Bretagne, on n'est pas trop touchés. Mais là on parle de Coupe de France. On parle de Coupe de France. Et ça, moi, non, j'ai beaucoup de personnes soignantes autour de moi qui galèrent. Mon fils est à Chambéry, il travaille aux urgences, il en peut plus. Enfin, voilà, je pense à tout cela, moi, et tous ses partenaires, les bars, restos qui sont fermés, là, les moniteurs de ski qui sont à l'arrêt, tous mes autres sports qui sont arrêtés, qui potentiellement peuvent faire de l'extérieur, hein. Enfin, je pense au tir à l'arc, à la pétanque. Eux, ils sont arrêtés. Et nous, on irait jouer au football. Je comprends qu'il y a des enjeux. Je suis pas. Voilà.
Alors selon vous, voilà, vous parlez d'enjeux justement. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire avec la Coupe de France ? Est-ce qu'il faut essayer de la terminer avec les clubs amateurs qui le souhaitent, ou alors l'annuler tout court, ou ne la réserver qu'au football professionnel ?
Alors, moi, si on me dit, si le président Macron prend la parole, ou le Premier ministre prend la parole jeudi, qui dit que tout va mieux et qu'on peut enlever les masques, que la vie reprend, il n'y a pas de souci, on jouera ce match de foot. Mais c'est pas le cas. Et effectivement, maintenant, est-ce qu'il faut laisser le monde pro? Bah, peut-être que, exceptionnellement, la Coupe de France, faut pas qu'elle se joue cette année, ne serait-ce que par solidarité. Effectivement, c'est la vieille dame, n'a jamais été arrêtée. Je comprends tout ce discours, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas autre chose? Il y a sûrement des enjeux financiers. Je sais qu'il y a des clubs qui attendent cette dotation du 7e tour. C'est évident. Faut juste être honnête. Et moi, en tout cas, je suis pas du tout dans ce business-là. Pour l'instant, c'est ma voix, c'est ce que je dis. Je représente Bourblanc, je suis encore le président. J'endors plus, hein, depuis 5 jours. J'endors plus. Hein. Je vais être honnête, j'ai honte pour mon sport. J'ai honte pour le football. Voilà, mais non, je trouve qu'on est des enfants gâtés, mais non, c'est ce que je pense.
Quel est le protocole, si jamais vous jouez, quel est le protocole imposé à votre club et à vos joueurs pour pouvoir vous présenter dimanche contre le Stade Briochin ?
Ah bah dimanche contre le Stade Briochin, c'est un protocole qui est globalement, j'ai envie de dire sérieux, hein, effectivement, 2 tests PCR, ça fait 110 € fois 40 joueurs fois le nombre de matchs payés par la sécurité sociale, 700 000 €, on va dire. C'est du huis clos, donc c'est pas la joie de la commune, hein, parce qu'on en a fait un la dernière à un 6e tour contre Béton, nos amis de Béton, où on a perdu 1-0, mais c'était la fête, c'était avec Béton. Enfin, j'ai eu le président, qui un super gars avec qui on a eu des relations, on a bien préparé notre match, on a accueilli. Le seul rôle que j'ai eu à faire en tant que président, c'est d'aller chercher les supporters à Guy Pavot, ils venaient en quart, pour leur présenter ma commune et présenter mon canton. Et tout le reste, c'est mes bénévoles qui ont géré. Ça demande énormément d'organisation. Alors là, le huis clos, on parle du match. Mais avant, il faut des gens pour tracer. il faut des gens pour préparer les maillots, il faut des gens pour nettoyer derrière. Et tout ça, c'est mes bénévoles qui font.
Une petite page de pub, Patrice, et puis on revient pour la deuxième partie de cette interview sur Radio Bonheur.
Merci.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé et des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Les ateliers du réseau Renault sont ouverts pour assurer votre mobilité. Afin de vous protéger au maximum, nous continuons de tout faire pour vous garantir le respect des règles sanitaires et vous accueillir en toute sécurité. Et pour vous offrir encore plus de services, chez Renault, le pack contrôle technique, c'est un bilan préparatoire. Le contrôle technique, un véhicule de remplacement et la contre-visite offerte pour seulement 99 euros. Renault, ouvert pour vous. Offre réservée aux particuliers, conditions et prises de rendez-vous sur Renault.fr.
Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc.
Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale.
Mais si, je les connais. Pff, je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dites donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Leclerc.
Du 25 janvier au 7 février, pour l'achat de 50 masques jetables à 4,85€, un gel hydroalcoolique d'une valeur de 1,59€ est offert.
Pourquoi tu me dis ça?
Parce que t'as besoin de masques et de gel et que c'est marqué là.
Où ça?
La promo, là, juste devant toi.
Ah oui, super, merci. J'y voyais rien avec la buée sur mes lunettes.
Et c'est à cause du masque.
Voilà.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir conditions en point de vente et sur www.e.leclerc. Ensemble, respectons les gestes barrières.
Du lapin.
C'est qui le chef qui a fait ça?
Qu'est-ce que c'est bon!
Franchement, super idée.
Délicieux.
Eh oui, voilà ce que vous allez entendre en cuisinant du lapin. Risotto, nuggets ou émincé. Le lapin s'invite partout. Le lapin, c'est remarquablement tendre. C'est sain et ça renouvelle le bout de la fourchette. Et en plus, manger du lapin, c'est aussi soutenir nos éleveurs.
Le lapin, faites-vous remarquer et retrouvez des tas d'idées recettes sur lelapinfaitesvousremarquer.fr. Il est remarquable, le patrimoine européen.
On en parle.
Vous souhaitez remplacer votre chaudière par une pompe à chaleur. On en parle dans un instant par téléphone avec Bruno qui a fait appel à Easy by EDF.
En ce moment chez Poltron et Sofa, c'est la semaine des super affaires. Avec des réductions qui atteignent des sommets. Jusqu'à moins 70% sur tous les canapés en magasin. Et ça, c'est une belle victoire pour vos économies. Dépêchez-vous, ça se termine dimanche. Poltron et Sofa, à Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, Paul, ce salon?
Avec la fuite d'eau, toute la peinture est à refaire. Et en plus, on va sûrement m'envoyer un expert et...
Vous savez, chez Groupama, on peut vous proposer d'être immédiatement indemnisé si vous faites les travaux vous-même. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Vraiment?
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Dimitri, professeur, a besoin de sa voiture pour aller travailler. C'est pourquoi GMF rembourse au prix d'achat votre voiture de moins de 4 ans, si elle est volée ou détruite. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF.
Retour des déchaînés du football, 19h57. On parle Coupe de France avec oui. Saint-Brieuc et surtout Bourg-Blanc.
Oui, l'adversaire des Briochins avec le président Patrice Arand. Patrice, on continue cette interview. Moi, j'avais une question sur la formule de la Coupe de France. Alors, effectivement, il y a les conditions par rapport à la crise sanitaire, mais la formule dans sa globalité qui a été choisie est critiquée, décriée parfois. Mais malgré tout, elle permettra d'avoir 17 clubs amateurs en 16e de finale. Ce serait une première. Quel est votre regard, vous, sur cette formule qui, pour le foot amateur, pourrait être une sacrée porte d'entrée, finalement, vers les tours finaux?
Ah, bien sûr, effectivement, je critique pas du tout la formule, au contraire, de toute façon, si on veut faire la Coupe de France, il fallait à un moment se réorganiser, donc cette étude a dû être bien menée, elle a dû être vérifiée, effectivement, c'est une chance pour les clubs amateurs, les clubs amateurs, surtout nationaux, qui s'entraînent beaucoup et qui n'ont pas forcément arrêté comme nous, vrais clubs amateurs où nos gars, ils bossent et n'ont pas de contrat, donc effectivement, ça, pour ces clubs-là, c'est une joie, sûrement, de jouer, là, je suis tout à fait conscient, hein. Mais voilà, après, c'est des risques qu'on peut prendre, quoi. Nous, on s'est pas très peu entraîné, quelques vidéos avec le coach, jusqu'au confinement au couvre-feu de 20h, ben, on essayait de faire les entraînements, 18h30, donc certains pouvaient pas être là. Et là, depuis, ben, les entraînements, c'est uniquement le week-end. Ils s'entraînaient encore dimanche, j'ai été les voir. Alors, on a 11, 12 joueurs, parce que certains, sont pas forcément dispo. 6h du matin, ou 6h30, on aurait pu avoir, 6, 7 joueurs, globalement. Après, ils sont tous parents, ils vont pas mettre à mal leur couple non plus pour faire du foot, hein, ce que je peux comprendre, hein. Donc, c'est compliqué de s'entraîner mais maintenant, effectivement, la formule était peut-être avantageuse, on va dire, aux amateurs. Il n'y a pas de souci. Moi, je critique pas la Coupe de France, ni le fait de la jouer. Je trouve juste que c'est pas le bon timing avec tout ce qui se passe. Qu'on n'est pas en condition, on n'est pas prêt. Enfin, nos DTN qui d'habitude nous disent attention avant un match, faut se préparer tant de temps, il faut faire attention, faut faire des matchs de préparation avec des niveaux. Et puis là, on les entend pas. Nos médecins fédéraux qui ont quand même une connaissance des traumatismes qui peut arriver à un sportif amateur, hein, qui est pas affûté comme un joueur pro. Et puis là, ben, j'ai l'impression que tout ça, ces corps-là, ils ont été pas consultés ou en tout cas pas écouté.
C'est une drôle de période tout de même, Patrice.
Ah, c'est une drôle de période. Moi, ça me fait pitié parce que bah, j'adore mon club et j'aime bien avoir mes bénévoles et mes supporters, mes jeunes. Et puis bah, là, effectivement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Je suis conscient. Mais peut-être qu'il faut pour l'instant encore faire attention et puis essayer d'enrayer cette pandémie qui est quand même, pour moi, grave, quoi. Pour notre économie, et surtout pour notre santé.
Merci beaucoup, Patrice, président de Bourg-Blanc, le club qui doit affronter Saint-Brieuc dimanche. On se tiendra évidemment au courant de l'avancée de vos négociations, de vos discussions, surtout au club. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage, Patrice, ce soir sur Radio Bonheur. À bientôt.
Eh ben, merci, en tout cas, à vous de m'avoir écouté. Et puis voilà, je ne veux pas faire ni de polémique, ni rallier des gens à ma cause. Je veux juste dire mon ressenti.
Merci beaucoup.
Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, bonsoir. Retour des chaînes du football dans un instant sur Radio Bonheur après les infos de 20h. Il est 20h01. Bonne soirée à tous.
Bonsoir à tous. Le gouvernement va devoir trancher sur un troisième confinement. C'est au cours du Conseil de défense sanitaire prévu mercredi autour du chef de l'État que la décision devrait être prise 10 jours après l'instauration d'un couvre-feu généralisé à 18h dont les effets sont encore difficiles à évaluer. Des décisions seront prises cette semaine. Il ne s'agit pas de baisser la garde. C'est ce qu'a confirmé ce lundi le Premier ministre Jean Castex. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on indique que rien n'est encore acté et qu'il s'agit de trouver le juste équilibre. Nous voulons aussi être cohérents vis-à-vis des Français qui font des efforts depuis des mois, c'est ce qu'ajoute la même source. Alors que l'arrêt prolongé des remontées mécaniques fait plonger les taux de réservation dans les stations de ski, le gouvernement veut montrer son soutien aux saisonniers. Deux membres du gouvernement en déplacement dans les Hautes-Alpes ce lundi ont annoncé que l'État va apporter une aide massive aux acteurs publics et privés de la montagne pour compenser ses pertes. Nous serons au rendez-vous pour garantir aux communes concernées et aux exploitations de remontées mécaniques des ressources minimales. C'est ce qu'a expliqué le ministre délégué chargé des comptes publics Olivier Dussopt. Il était en déplacement à Saint-Étienne, en Dévoluy, près de Gap, avec le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Joël Giraud. Et puis, les patients déjà vaccinés contre la Covid-19 avec des doses de Moderna sont bien protégés contre les variants détectés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. La société de biotechnologie américaine a assuré ce lundi dans un communiqué que son vaccin restait efficace contre ces variants plus contagieux. Ni logo du Rassemblement National, ni le nom Le Pen, même le prénom de la présidente du RN est simplement suggéré par sa première lettre. Lors de ses vœux à la presse ce lundi, Marine Le Pen a présenté un nouveau site internet, M l'Avenir, une plateforme collaborative sur laquelle sympathisants et citoyens sont invités à poster des tribunes et des idées en vue de la présidentielle de 2022. Une initiative de démocratie participative pas ancrée dans la culture très verticale du RN qui n'est pas sans rappeler le site Désir d'Avenir de Ségolène Royal en février 2006 ou celui d'En Marche qui reprenait lui aussi les initiales de son champion.
Allez, la dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football, 20h04, le moment de parler de Guingamp. Un point miraculeux pour les Guingampais ce week-end.
Et encore un, c'est pas la première fois que Guingamp revient comme ça, Gaëtan, Dominique, après une première période absolument immonde, honnêtement.
Oh, 75 premières minutes même, peut-on dire.
C'est vrai.
Il y a que le dernier quart d'heure où ça s'est un petit peu survolté du côté de Guingamp, mais c'est tout.
Quelle tristesse et quelle chance, on peut le dire, pour les Guingampais avec ce but marqué à la 90e. La frappe, par contre, est splendide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Le but est magnifique.
Le but est magnifique,
je
mais...
pense que, comme vous dites, la chance, Dominique, c'est que Guingamp n'a pas été mené 2-0 dans ce match, parce qu'il y a quand même eu des hésitations défensives. On repense, Gaëtan, à l'hésitation de Niakate, Basilio, on y reviendra tout à l'heure, mais... Ou Thierry Monk face au but vide. Voilà, c'était encore ce Guingamp complètement apathique, sans vie, sans...
Face à un triste Havre, parce qu'on a vu quand même une équipe du Havre peu enclin à attaquer. Et même quand elle a eu des occasions énormes, elle n'a pas réussi à les transformer. Je me souviens notamment de la frappe, alors je ne sais plus qui a manqué son tir, mais la cage était vide, le gardien était sorti, et il loupe, il est à quoi, à 20-25 mètres maximum du but, enfin c'est quand même assez large un but, il n'est pas capable de la mettre dedans, alors qu'il est tout seul à 20 mètres du but. Bon,
ce qui est assez fou, c'est que cette équipe de Guingamp, en ne jouant qu'un quart d'heure dans le match, elle est capable d'accrocher.
Oui, mais c'est parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose.
Ça reste le 13e de Ligue 2. Et Guingamp, en jouant un quart d'heure, accroche quand même le 13e de Ligue 2. Ouais. C'est pour ça qu'on se dit que si Guingamp jouait plus que ça, eh ben Guingamp pourrait faire beaucoup mieux. Avec cette équipe, il y a de
ça
quoi faire beaucoup
mieux. Ça fait des mois. On se lamente, on sait qu'on a les moyens.
Mais il n'y a rien qui l'anime.
Il n'y a rien qui l'anime, il n'y a pas assez de caractère, il n'y a pas de dépassement de soi au début des matchs pour prendre en main les rencontres. On a cru que ça allait venir avec les deux matchs contre Amiens et Châteauroux en début d'année, où là, Guingamp avait pris son destin en main dans ces matchs-là. Et puis, comme ça allait mieux d'un coup, on en a peut-être un petit peu moins fait. Ensuite, contre Nancy, est-ce que les consignes aussi ne sont pas trop restrictives? On ne découvre pas Mecha Bazdarevic, on le savait, on l'a dit quand il est arrivé, dans des conditions qui ne l'ont pas
presque
mis dans le confort.
Presque rocambolesque quand même.
Voilà, exactement. Et bon, on sait que c'est un défenseur qui privilégie d'abord la stabilité défensive, le fait de ne pas prendre de but, ce qui a été le cas à son arrivée. Guingamp a très vite plus pris de but, mais il n'en marquait plus. Voilà, donc il y a une animation défaillante. On va revivre ce Le Havre-Guingamp avec le résumé quand même, avec les commentaires de Gaëtan, et puis on débriefera avec les réactions notamment de Mecha Bazdarevic et de Sikou Niakate.
C'est pas dévié, c'est pas frappé juste à côté, pardon. Là, on a bien cru au but, sauf que c'est venu taper un poteau. Vous savez, un poteau qui permet de tendre le filet derrière le but. Il y a le bon appel en plus de Ndembe sur le côté droit, et il va fixer Gomis pour servir Logan Ndembe. Ndembe le contrôle, le centre ensuite vers Gomis, la reprise derrière Domchangama, elle est captée par Mathieu Gorgelin. Alexandre Bonnet maintenant, Thierry aux abords de la surface qui va s'emmener ce ballon. Thierry, pénalty. Oh, pénalty pour le Havre. Cette fois, ils n'y couperont pas les Guingampais. C'est encore Sikou Niakate. Alors, Niakate et Sampaio. Et Thierry qui va s'élancer. Thierry qui a marqué ses deux buts cette saison contre Guingamp. Peut-être à 100% face à Guingamp pour Thierry. Basilio qui était parti du bon côté. Mais Jamal Thierry qui trompe le portier Guingampais en avant. À nouveau mené 1-0 par le Havre. Mais Lécal intervient devant l'ancien Rémois et peut à nouveau offrir un ballon de contre-attaque à Jamal Thierry. La sortie, ils se sont trouvés les Guingampais. Le but est vide pour Jamal Thierry qui va frapper juste à côté. Oh, Guingamp qui passe tout proche de la correctionnelle. Et si c'était le tournant du match, parce que là, une sacrée mésentente entre Basilio, sorti de sa surface de réparation, et Niakate qui a quand même essayé de prendre le ballon. Thierry dans la surface de réparation, à côté Jamal Thierry qui mange la feuille ce soir, parce que ça lui fait déjà 4 occasions à Jamal Thierry, dont 3 manquées. Et là, Nadjiba, le centre est profond, trop profond, et capté, relâché par Gorgelin. Ce ballon dégagé finalement, mais récupéré par en avant avec Rodelin. Dans la surface, le centre est bon vers Livolo. La tête à côté de Livolo.
4 buts à 1 face à Amiens.
Le centre est bon, c'est repris, la frappe est but. But de Rony Rodelin, la 90e. Guingamp qui égalise sur une frappe limpide de l'ancien canard Rony Rodelin sur la pelouse du Havre. Guingamp revient de très très loin dans ce match. Un but presque inespéré dans cette fin de rencontre. Le 4e cette saison de Rodelin. Guingamp va sans doute arracher un point sur la pelouse du Havre. Un partout. Ça s'arrête là pour en avant qui tient un point miraculeux sur la pelouse du Havre.
Et un but partout, score final.
Oui, et parce qu'on n'y croyait plus hein, dans ce match quasiment.
Non, 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 c'était mort.
Ouais, on disait, je disais sur le commentaire, ça a été le tournant du match hein, finalement, Pierre, cette frappe manquée de Thierry face au but totalement vide. Mmh. Et surtout après une mésentente entre Niakate et Basilio.
Ça a été la chance de Guingamp de voir une équipe du Havre qui n'est pas dans une confiance folle non plus. Hein. Ils sont juste devant Guingamp au classement, oui. Alors que c'était aussi, comme Guingamp, un prétendant à la montée en Ligue 1. Ça a été la chance de Guingamp. Et encore une fois, la chance de Guingamp, ça a été de pouvoir compter sur des entrants qui ont secoué un peu tout le monde. On parlera de Rodelin dans quelques instants. Il y a eu Faiton aussi qui a, par ses accélérations, ses percussions sur le côté, a fait des différences. Mais c'est fou quand même qu'à chaque fois, il faut attendre soit d'être mené, soit que ce soit le banc qui essaye de secouer. Alors parfois, il n'y a pas du tout de révolte. On l'a vu contre Nancy il y a une semaine. Mais voilà, c'est toujours, toujours, toujours une équipe à réaction, ouais. Les trois quarts du temps. Et ce qui est fou, Gaëtan, c'est qu'on a eu un petit message après ce match de Franck Ledors, qui est des spécialistes du foot breton pour le journal L'Équipe, et qui a dit « Je me suis posé devant le match de Guingamp et il n'a rien vu. » Et on lui a dit « Mon petit bonhomme, c'est comme ça. »
Depuis le début de la saison.
Bah, 80% du temps. Il n'y a pas 5 matchs cette saison qui nous ont... On s'est dit, tiens, on a vu quelque chose aujourd'hui. Non. C'est fou. Mais c'est la période actuelle. On ne va pas en reparler une 150e fois. C'est, tout ça découle d'une gestion qui a été horrible pendant des mois et des mois. Mais voilà, il y a toujours les mêmes mots. Guingamp n'arrive pas à les corriger, mais au moins... C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais au moins il y a toujours cette capacité de réaction, d'aller chercher des points.
Parfois,
c'est la sixième fois.
Ouais, sixième fois de la saison.
Ça,
ouais.
Ça fait 6 fois quand même que ça arrive que Guingamp a égalise comme ça. Il y a eu à Nancy, il y a eu contre Ajaccio le 2-2, ouais. Il y a eu contre Rodez. Là, il y a eu le Havre. C'est arrivé.
Alors par contre, Guingamp renverse jamais l'adversaire. Ça, c'est un peu le problème. Mais parce qu'à chaque fois, c'est un match nul à l'arrivée. Il n'y a pas eu de victoire quand Guingamp a concédé le premier but cette saison. Ils avaient renversé Nancy au match aller à 2-1, mais Nancy, c'est l'inverse. C'est Nancy, ouais. C'est Guingamp qui avait été renversé avant d'égaliser. Mais voilà, Guingamp n'arrive jamais à gagner quand Guingamp est mené, mais arrive à accrocher un point par-ci par-là. C'est le sixième comme ça cette saison.
C'est pour ça qu'ils sont pas si bas au classement. Hein.
Oui.
Et aussi parce qu'il y a des équipes très tristes derrière, comme Pau par exemple, qui sera le prochain adversaire des Guingampais. Il faudra pas se louper là.
Non, là il faudra agir enfin pour les Guingampais, avoir peut-être aussi une meilleure animation offensive. Voici l'avis de Mecha Bazdarević sur cet aspect du jeu.
C'est vrai, c'est ce qu'on m'a demandé d'être solide, mais il faut oser. On a mis quand même 3 attaquants, Youssouf Daniel. Techniquement, on n'était pas très bon, surtout dans le premier mi-temps. On est arrivé jusqu'au 30 mètres, on perd des ballons. Il n'y a pas de cette justesse, cette percussion qui pour encore peser plus sur cette animation offensive.
Bon, on n'entend pas très bien Bazdarević, mais...
La justesse.
On n'a pas. Oui, ça on a bien vu. On a bien entendu. Ça manquait de justesse.
Ben, le problème, Gaëtan, on en parlait hier un petit peu en off, mais... on a l'impression que c'est la même réaction après chaque match.
Oui.
Il manque toujours de la percussion, de la justesse technique. Mais
et le problème, c'est que
qu'on fait pour enrayer ça.
Oui. Et puis surtout qu'il manque, parce que quand il manque de la justesse, de la percussion, etc. Ok, mais il y a quelque chose. Une base à ce jeu-là. Et le problème, c'est que là, on ne sait pas si Guingamp veut attaquer ses matchs, prendre la possession, jouer en contre-attaque, utiliser les ailes, s'appuyer sur son meneur de jeu qui est parfois Rodelin, parfois Mchangama. On ne sait pas trop où est-ce que ça se dirige en fin de compte tout ça.
Non, parce que souvent le bloc est bas. Est-ce que c'est voulu? On peut en douter de voir un Guingamp qui subit complètement, qui attend son adversaire. Oui. On l'avait vu aussi contre Amiens, hein, où Guingamp, après une heure de jeu, avait complètement arrêté de jouer.
C'est ça.
Et s'était fait punir. Alors que, quand même, quand. Alors. Oh, autant, je trouve quand même que cette saison, il n'y a pas beaucoup de choses positives. Mais il y a quand même, de temps à autre, des temps forts. On l'a vu contre Caen, en Coupe de France, avec le poteau puis la barre. Là, on l'a vu un petit peu dans le dernier quart d'heure, avec les accélérations de Faiton et puis un Rodelin aussi qui a bonifié le jeu. Mais quand on voit les temps forts là, on se dit, mais c'est pas possible que cette équipe ne soit pas capable de faire ça, au lieu de faire sur 5-10 minutes, de le faire sur 30-40. Vous pouvez pas jouer 90 minutes comme ça, mais au moins 30-40 minutes, ouais. Ça vous soulagerait tellement dans des rencontres. Même on a vu à Châteauroux, hein, Guingamp marque 3 buts en un quart d'heure, je crois. Donc
c'est ça.
Ils sont capables par à-coup, mais et là encore, c'est la question. Moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est de la faute des joueurs principalement? Est-ce que c'est principalement de la faute de l'entraîneur, du staff qui n'arrive pas à donner une direction? Je pense que tout est lié, mais qui est plus responsable que l'autre?
Vous le disiez tout à l'heure, Pierre, on sait que Mecha Bazdarević, c'est un entraîneur qui aime bien sa base défensive à Istres, à Grenoble, au Paris FC. On voyait, ça a été souvent sa première année, en tout cas, c'était la meilleure défense de Ligue 2, le Paris FC. Une équipe qui, pareil, souvent un bloc bas, qui attendait son adversaire, qui prenait pas beaucoup de buts, mais qui n'était pas forcément non plus très spectaculaire. Là, le problème, c'est que Guingamp n'est pas spectaculaire, d'accord, mais en plus, cette solidité-là, elle ne vient pas malgré cette frilosité, peut-être, sur certains matchs dans l'ambition de jeu.
Ouais, et pourtant il y a, excusez-moi un petit peu le terme familier, mais il y a du matos devant.
Oui.
Quand vous voyez Anne Bakoto qui est quand même capable en Ligue 2 de d'avoir des statistiques, Rodelin qui de temps à autre arrive à éclairer le jeu, Mshangama dont on attend toujours de revoir le poids qu'il avait l'année dernière, un Livolan aussi qui est capable de bouger, le secouer le cocotier, Gomis. Comme Faiton, Gomis qui avait marqué une quarantaine de buts sur les trois dernières saisons de Ligue 2 avant qu'il arrive,
sûr,
à Guingamp.
Hein.
C'est on est retombé comme il y a 15 ans dans une dynamique où les joueurs sont performants avant d'arriver à Guingamp mais deviennent des joueurs quelconques à Guingamp
et brillent quand ils repartent.
C'est ce qui me fait me dire que c'est peut-être pas forcément que de la faute des joueurs. Il y a un contexte général qui ne met peut-être pas les joueurs dans une confiance optimale, et puis peut-être des consignes. Voilà, c'est un problème général. De toute façon, quand ça marche pas comme ça, c'est un problème global de tout le monde. C'est pas l'un ou l'autre. On voit bien, il y a eu trois entraîneurs différents avec cette équipe-là. On peut pas dire qu'il y a eu de grands changements profonds. Donc c'est ce qui nous fait dire aussi que c'est pas que de la faute de l'entraîneur, mais c'est un problème sans fin. Ce qui fait donc que Guingamp est toujours dans cette période tumultueuse, tortueuse. Il doit se maintenir cette saison en Ligue 2 avant peut-être d'enfin essayer de réussir à tout reconstruire encore, parce que Guingamp n'a toujours pas digéré sa descente en Ligue 2. Et Guingamp qui effectivement, Gaëtan, a été proche de la correctionnelle. Vous parliez de la fragilité défensive. On l'a vu avec Basilio deux fois, notamment une fois où il a failli quasiment sortir de sa surface balle en main. Et surtout cette incompréhension avec Sikunia Kate. Écoutez, le défenseur guingampais qui est loin aussi de son niveau de l'année dernière. Il revient sur cette action-là avec Basilio et Thierry qui auraient pu en profiter.
C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. Je prends pratiquement un carton jaune tous les deux matchs. C'est pas facile. Là, sur ce match-là, je pense que pour ma part, ce sera un match à oublier. J'ai fait beaucoup de petites erreurs d'inattention. Sur le penalty, je peux mieux défendre. Je dois défendre mon but. Et sur la sortie de Enzo, je pense que il m'a parlé. Mais après, je pense que à ce moment-là, je me suis dit je suis plus à même de prendre le ballon.
Et ça, c'est assez fou qu'Enzo Basilio lui dise de le laisser et que Niakate intervienne.
Surtout qu'il n'y a pas de public, donc il a dû l'entendre.
Oui. Et puis il le reconnaît, hein, il me l'a dit, mais je pensais être le plus à même de prendre le ballon. Mais quand le gardien sort de sa surface de réparation et qu'il parle, parce que c'est généralement ce qu'il fait, le défenseur doit tout de suite se retirer, parce que sinon on s'expose à ce genre de situation qu'on a vu, à une mésentente entre les deux et puis éventuellement un but de l'adversaire.
Ah oui.
Ce qui,
ça aurait dû faire 2-0. Ça aurait dû faire logiquement 2-0.
Ah bah là, oui, c'était clairement la balle de 2-0. Et je comprends pas que Niakate ait cette envie d'intervenir à ce moment-là.
Bah, vous savez, assez incompréhensible. Que si vous êtes 5-6e, ce genre d'action, ça n'arrive pas.
Ouais, c'est
un problème. On a entendu Michael Siani tout à l'heure parler des mots qu'il avait eu avec Lorient l'année de la descente. Ça se joue beaucoup dans la tête. Et il y a des actions où vous n'êtes pas bien, où vous doutez avant, pendant, après les matchs. Et du coup, quand vous devez prendre une décision d'une fraction de seconde, vu que vous avez la tête à l'envers, mais c'est pas forcément la bonne.
Ouais, puis Niakate, il était en plus, il a dit un match à oublier, celui au Havre, parce que c'était quelques minutes après le pénalty qu'il avait concédé. C'était aussi après un pénalty qu'il aurait dû concéder en première mi-temps, qui n'a pas été sifflé. Donc il était vraiment dans un enfer sur ce match-là. Sikou Niakate.
Oui, et on y reviendra peut-être cette semaine parce que c'est vrai qu'il est loin, vraiment loin du niveau très bon auquel on l'avait vu l'année dernière. Oui. Ça avait été un des meilleurs Guingampais l'an passé, notamment en défense. Il y a un homme qui, lui, par contre, est toujours sur la même tonalité. Ce qui nous ravit parfois, ce qui nous agace souvent, c'est Ronny Rodelin qui, Gaëtan, a changé le visage de Guingamp samedi.
Oui, il a marqué bien sûr, mais au-delà de ça, il a éclairci le jeu guingampais, comme on le dit parfois quand il nous fait plaisir sur la pelouse, Ronny Rodelin, par ses décalages, par ses déplacements, par je pense aussi à son très très bon centre sur Lee Volant juste avant le but, un centre où il y aurait pu avoir un pénalty pour Guingamp. Il y a eu un petit moment de flottement aussi à ce moment-là. Il est capable vraiment de distribuer de super ballons, d'orienter le jeu de Guingamp et tout de suite d'apporter un nouveau visage à cette équipe. Et il a en plus été récompensé sur son but.
C'est fou parce que on a l'impression qu'il y a des joueurs et beaucoup de joueurs dans cette équipe qui impactent plus l'équipe lorsqu'ils entrent en jeu que lorsqu'ils débutent.
C'est bizarre.
Pour moi, Faiton et Lee Volant apportent plus lorsqu'ils rentrent en jeu que lorsqu'ils sont titulaires. Et peut-être que Rodelin aussi est en train de devenir ce genre de joueur-là. Écoutez, on verra. En tout cas, voici à ce sujet l'avis de Mecha Bazdarević après ce match.
Non, je pense que c'est un garçon, vous savez aussi, qui a besoin. Et des publics, environnement, et affection, et plein de choses. Et puis voilà, on sait que c'est un très très bon footballeur. Et puis ce que je disais, depuis 4 mois et demi, si on a un vrai Rodelin chaque semaine, on est vraiment dans une autre situation aujourd'hui. Non, c'est un garçon, il faut le booster, il faut continuer de travailler. Mais moi, je l'ai senti même avant le match qui était complètement dans le match.
Ouais, il a senti tout de suite.
Je crois que c'est Dido aussi qui, l'année dernière, je sais plus à quel moment, l'avait un peu secoué. En tout cas, il en parlait souvent. Et puis, c'était à l'hiver, je crois. Et puis, il y avait eu son triplé à Châteauroux. Et c'est vrai que c'est terriblement agaçant. Parce que, et même, on en a parlé de son attitude. Parfois, il donne l'impression d'être nonchalant et qu'il faut vraiment le bouger. Mais parce que quand il a un niveau, quand il a, on va dire, allez, à 80-90%, il est capable de porter cette équipe.
Quand exactement.
Va, ça va à Guingamp. Le problème, c'est que c'est assez rare. Une petite page de réclame, la dernière dans ce magazine, et on termine de parler de ce nul ramené de Guingamp au Havre samedi.
On en parle.
Vous projetez d'installer une pompe à chaleur chez vous pour remplacer votre vieille chaudière. On en parle avec Bruno, par téléphone, qui vient justement d'utiliser les services Easy by EDF. Et Bruno, je crois que vous avez trouvé ce service très performant.
Oui, j'avais une chaudière qui était obsolète et je voulais changer pour une pompe à chaleur. Alors je suis allé sur le site Easy by EDF où j'ai rempli un formulaire.
D'accord.
Un conseiller m'a rappelé rapidement et on m'a proposé un accompagnement personnalisé.
Et cela consiste en quoi ?
Alors, il a diagnostiqué toute mon installation avant de me proposer le modèle idéal, qui n'était pas le plus cher en plus. Et puis il a mandaté un expert du réseau Easy by EDF pour l'installation, qui était un artisan RGE.
Et là, vous avez fait une demande d'aide de l'État ?
Ah non, ça aussi, c'est le conseiller Easy qui s'en est occupé. Moi, j'ai juste payé la différence. Ça a été très simple de passer par Easy.
En effet. Merci beaucoup, Bruno.
On en parle. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Sarenza, ça tourne !
Fais voir ma présentation vidéo que tu as filmée.
Tiens.
Mais comment tu tenais la caméra ? On voit que mes chaussures. T'es relou.
Enfin, mais c'est toi ! Tu m'as demandé de zoomer sur ce que t'as de plus beau.
Sarenza.com.
Moins 15% supplémentaire des deux paires de chaussures achetées, femmes, hommes ou enfants. Voir conditions sur le site.
Leclerc.
Oh, ça y est, tu t'es enfin décidé à prendre ta fameuse centrale vapeur illimitée compacte Philips à 119,90€?
Non.
Et c'est quoi ça alors?
C'est ma fameuse centrale vapeur illimitée compact Philips, sauf que du 26 au 30 janvier, elle est à 55,90€.
55,90€?
Ouais, du 26 au 30 janvier.
55,90€?
Dont 1€ d'éco-participation.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir conditions de garantie en magasin, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Vous voyez, Franck Ferrand, je pense que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont la qualité et ceux qui ont le prix.
Mais non, Chantal, pas du tout. Chez Akena, ils ont le rapport qualité-prix. Pour leur pergola comme pour leur véranda, ils pensent à tous les budgets sans oublier la qualité.
Ah, ne me faites pas dire, je n'ai pas lu, Ferrand. Chez Akena, ils sont hors catégorie.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est la semaine des super affaires. Avec des réductions qui atteignent des sommets. Jusqu'à moins 70% sur tous les canapés en magasin. Et ça, c'est une belle victoire pour vos économies. Dépêchez-vous, ça se termine dimanche. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct pendant quelques minutes jusqu'à 20h30 sur Radio Bonheur. On continue de parler de l'en avant Guingamp, match nul arraché par Rodelin à la fin de ce déplacement au Havre.
Oui, cette équipe de Guingamp qui se cherche encore et toujours une sorte de déclic dans cette saison, on aurait pu penser que ça allait être le début d'année 2021, Amiens et Châteauroux, Gaëtan, mais le problème c'est que ça ne se matérialise pas encore par pas mal de victoires. Ça patine dans ce début d'année 2021 et la confiance manque.
Oui, ça ne perd plus en championnat en 2021, mais une seule victoire, 3 matchs nuls. Et on le sait, une victoire là sur les 14 derniers matchs de championnat. Donc c'est vraiment très 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 faible.
Beaucoup de matchs nuls. Hein.
Beaucoup de nuls. Par chance, voilà.
Je pronostique match nul contre Pau.
Par chance, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Par chance ou par aussi parce qu'elle produit, hein, bien sûr, mais. C'est quand même beaucoup trop lent, laborieux dans l'élaboration de cette saison pour aller chercher plus que cette 15e place.
Un mot sur la confiance justement avec Sikou Niakate.
Ouais, justement, on a besoin de ça, de confiance. Mais après, je pense que sur ce match-là, on va retenir le point qu'on a essayé d'aller chercher malgré qu'on soit un peu dans le dur pendant ce match-là. Et on va essayer de repartir sur des bonnes bases, sur ce qu'on a fait d'assez bien à la fin du match. On va essayer de retenir le positif pour pouvoir recevoir Pau de la meilleure des manières et donner tous les ingrédients possibles. Et
on connaît un peu la chanson maintenant quand même. Hein.
Oui, ça se répète un petit peu. Mais là, Pau, c'est vraiment un tournant, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas de victoire là...
Non, il n'y a plus de tournant à trouver. De toute façon, des tournants, on a l'impression qu'il y en a 20 par saison.
Enfin, quand je dis tournant, c'est dans le sens où... Je pense, c'est que s'il n'y a pas victoire là...
Oui.
Ce sera très, très, très inquiétant parce qu'en plus, Pau reviendra sur Guingamp parce que Guingamp entrera vraiment dans une sale spirale là.
Là, il y a 8 points d'écart.
Il n'y a pas forcément une défaite. Hein. Moi, je vois bien un match nul hein, contre Pau. C'est à l'image de ce que fait Guingamp en général.
Oui, match nul, ça pourrait être une 18e place.
Oui, c'est vrai.
À la fin du championnat, oui, c'est possible aussi.
Mais là, il y a 8 points contre Pau. L'enjeu clair de ce match, en cas de victoire, je rappelle, en cas de victoire, vous pouvez pousser Pau à 11 points. Et honnêtement, je ne pense pas que Pau pourra rattraper 11 points d'ici à la fin de saison. Tout peut se passer en football, évidemment. Mais là, ça sera l'occasion de faire le break au moins sur les deux derniers.
Oui.
On l'a dit que Guingamp joue le maintien. Donc, il faut vraiment s'intéresser à cette course au maintien. Guingamp sera loin d'avoir mis les barrages derrière lui. Mais au moins, mettre cet adversaire direct à 11 points, tout dépendra aussi de ce que Châteauroux fera. Voilà, ça... Ça donnera peut-être un coup de boost aux joueurs de regagner à domicile.
Châteauroux qui n'est pas mort, hein. Ils se battent à chaque match. Pau aussi, ouais. Hein. Il faut faire attention, ce sont des clubs qui n'ont pas...
Si Guingamp gagne, c'est vrai que ça fera peut-être 11 points.
Si vous voulez 11 points, eux qui n'en ont pris 14 en 21 matchs, bon, ça sera pas mal. Ça sera pas définitif, mais ça sera un grand pas de fait pour les Guingampais qui restent donc invaincu en 2021. Ça avance
en
comme
championnat.
Un escargot en championnat, évidemment. Ouais. Ça avance comme un escargot avec 3 nuls et une victoire. Mais on peut au moins reconnaître ce petit mérite au Guingampais. Écoutez à ce sujet Sikou Niakate.
Ouais, franchement, bah, c'est important de se dire qu'on n'a pas encore perdu, malgré le non-match qu'on a fait. On perd pas, on est toujours invaincu, donc en 2021, on essaie de rester le plus longtemps possible invaincu. Et il va falloir faire un gros match contre Pau pour repartir avec les 3 points et se soulager de plus en plus en 2021.
Ah, il va falloir faire un grand match contre Pau. Hein,
ouais. Oui, parce que en plus il y a le match en retard de Chambly cette semaine, mercredi, oui, contre Niort. Et si Chambly gagne, eh bien il n'y a plus qu'un point d'écart avec la 18e place, hein, pour Guingamp. Oui. Donc ce serait bien que Chambly ne gagne pas déjà pour bien démarrer la semaine, on a envie de dire. Mais surtout, évidemment, comme on le disait, il faudra gagner contre Pau samedi soir.
Bah oui, et surtout prendre le match en main, comme contre Amiens et Châteauroux. C'est ce qu'on veut voir déjà. Et ça devrait être plus facile, mais...
Mais oui, c'est un peu le problème en ce moment à Guingamp. Il y a souvent un mais qui vient contredire tout
plusieurs
ça.
Plusieurs mais surtout.
Ouais.
Bon, en tout cas, le prochain match des Guingampais, ce sera le week-end prochain, samedi prochain, match à 19h au Roux-de-Roux, prise d'antenne à 18h30 contre le Pau Football Club.
Et là, je récupère les clés du camion.
Ah. C'est,
alors, vous m'avez pas rendu la Coupe de France, mon petit Gaëtan. Mais
non,
voilà,
mais
vous êtes invaincu
en championnat.
Voilà, écoutez, bon, c'est... On prend.
Allez, bonne soirée à tous. Merci à Sébastien qui s'occupait de la partie vidéo sur la page Facebook des Déchaînés du Football. Merci à tous les deux, Pierre et Gaëtan. Et puis rendez-vous demain matin, comme chaque matin à 8h40, pour la rubrique.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.1.